Vous écoutez RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Inde, été 1959. Dans le train qui l'emmène à Calcutta, Mère Teresa note dans son carnet:
pourquoi je travaille? Si Dieu n'existe pas, l'âme ne peut pas exister. Et si l'âme n'existe pas, alors Jésus, toi non plus, tu n'es pas vrai.
RTL.
Est-ce que ces phrases correspondent à l'image que l'on a de cette religieuse mondialement célèbre?
Jusqu'à 22h.
Que se cache-t-il derrière le sourire de Mère Teresa, qui se disait elle-même une sainte des ténèbres?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut jusqu'à 22h sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On vous raconte maintenant l'histoire de Mère Teresa. Elle sera canonisée dimanche à Rome. Et pour découvrir ce destin, notre invitée Olympia Alberti, je rappelle que vous êtes romancière et que vous publiez un livre sur Mère Teresa auprès de la Renaissance. Vous l'avez suivie à la trace en quelque sorte?
Oui, j'ai mis mes pas dans ses pas. Malheureusement, je ne l'ai pas suivie à la trace puisqu'elle avait déjà quitté cette terre. Et j'étais de cette naïveté très classique qui consiste à, quand on aime les gens, à les croire éternels. Et d'ailleurs, ils le sont, mais pas sous la forme du contact rapide.
Alors, on va retracer évidemment les grandes étapes de sa vie. Je voudrais commencer par ces bidonvilles de Calcutta, ces miséreux à qui elle a consacré son existence. Dans une sorte de journal intime que vous avez reconstitué, elle raconte sa première visite au bidonville de Taltala. Alors, on est à la fin des années 40. Je voudrais que vous nous racontiez, qu'est-ce qu'elle découvre? C'est quoi le bidonville de Taltala?
Elle ne découvre pas. Elle a connu la déchéance des peuples pauvres de l'Inde. Elle la connaît depuis plus de 30 ans. Et rappelez-vous qu'elle est arrivée en Inde, elle avait 18 ans, en 1928, exactement le 6 janvier 29. Donc non, mais elle découvre qu'il y a des gens qui vivent dans des cloaques. Ça, elle le touche à ce moment-là, avec des rats qui dévorent les yeux et les doigts tendres des enfants. Elle découvre des plaies béantes.
Il y a un récit dans votre livre. Oui. Je pense qu'il faut presque le détailler pour bien prendre conscience de ce que c'est.
Je crois qu'il faut le dire parce qu'on ne le sait pas.
Elle voit une femme qui est tombée dans la boue, c'est ça, le visage dans la boue.
Elle retourne et elle voit qu'elle a été dévorée par les rats et la vermine. Elle a une partie du corps qui a disparu.
Et elle est encore vivante, cette femme.
Elle a encore un souffle de vie.
Comment réagit Mère Teresa? Qu'est-ce qu'elle fait pour elle?
À ce moment-là, elle comprend tout de suite qu'elle ne pourra pas la sauver. Elle la prend dans ses bras et elle l'aide à respirer. Elle lui caresse le visage. Elle essaie de lui donner de la douceur, peut-être une ultime douceur.
Ça veut dire qu'elle prend conscience dans ce bidonville qu'elle veut aider, sauver, apporter du bien à l'homme?
Cette conscience, elle l'avait déjà, puisque pour mériter, après 2 ans et demi de lutte, l'exclaustration, c'est-à-dire le droit de pratiquer sa foi de manière active en dehors d'un couvent, il lui a fallu obtenir, par des arguments très très forts, où elle parle des pauvres parmi les pauvres, des miséreux, des abandonnés, de toutes les misères du monde, elle veut s'en occuper. Donc ça, elle en a déjà conscience.
Parce qu'elle elle vivait dans un couvent à Calcutta, c'est
oui,
ça?
Oui, Loreto House.
Voilà,
oui.
Et elle souhaitait en sortir pour pouvoir s'occuper vraiment des miséreux.
Et surtout, elle voulait incarner par sa vie la même pauvreté. Elle dit, pour pouvoir aider les pauvres, il faut être pauvre comme eux. Elle ne peut pas vivre, elle, à l'écart, dans la beauté. Elle ne peut pas vivre à Loreto House en se disant, moi je suis à l'abri, je vais faire mes heures comme un fonctionnaire et rentrer. Elle veut être avec eux. Et le premier acte qu'elle commet, si j'ose dire, quand elle sort, en août 48, elle prend un bout de bâton, elle appelle les enfants près d'elle, elle leur donne ses sandwichs, parce qu'elle en a un ou deux, les enfants sautent dessus, évidemment, ils ont faim, et avec son bâton, elle trace des lettres de Bengali, elle leur apprend à lire. Elle commence en disant, qu'est-ce que je vais faire? Les éduquer.
Olympia Alberti, vous racontez sa vie, la vie de Mère Teresa, dans votre livre Le Royaume de sa Nuit, un très beau titre publié aux presses de la Renaissance. Mère Teresa naît en août 1910 en Macédoine. Dans quel environnement familial?
Un environnement qui fait rêver, un père et une mère qui s'adorent, une sœur aînée, un frère, elle est la petite dernière, elle s'appelle Agnès. Gongcha, c'est ce qui veut dire Agnès en albanais. Elle est une enfant heureuse. Elle a l'exemple sans arrêt de l'harmonie, de l'amour, de la générosité, du don de soi.
C'est une famille de croyants?
Oui, complètement. Une vraie foi active, c'est-à-dire pas une foi théorique. Bien sûr, on va à la messe.
C'est quoi
bien
une
sûr,
foi
on chante.
Active
Une foi active, c'est mettre en acte les principes divins, éthiques, vrais. tel que les prônent aujourd'hui les grands mystiques, les grands spirituels comme Ostadelei, c'est-à-dire pas se contenter d'avoir un livre spirituel sur la cheminée entre la lampe et une statue, mais se dire tous les jours, je vais faire tous les jours un acte de bonté pour mes voisins et les plus démunis.
C'est ce que lui dit son père. Son père lui apprend la générosité en quelque sorte.
Et la discrétion.
Exactement. Je voudrais que vous racontiez ça. Il lui dit, tu vas donner, mais comment
il faut donner et vite disparaître. N'attends pas qu'on te remercie. Par exemple, il lui dit, si tu donnes de l'argent, tu jettes ça par une fenêtre ouverte et tu pars en courant. Ou alors, tu dissimules ça dans un panier de pommes. Mais tu n'attends pas qu'on te dise merci. Et
on ne tire pas de gloire, c'est ça de,
oui, et puis surtout, n'humilie pas celui à qui tu donnes. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à recevoir. Parce qu'ils sont, avant d'être heureux, d'être gâtés, ils sont pauvres. Et ils en souffrent.
Vous parlez d'une mystique. Pendant cette enfance, la future Mère Teresa, elle ne s'appelle pas encore Mère Teresa, elle reçoit quoi? Un appel de Dieu?
À 5 ans déjà, elle rencontre des missionnaires qui viennent de l'Inde et de Chine. Elle les voit pieds nus dans les sandales et elle aime leur simplicité. Elle aime, comme elle l'a dit, les histoires de là-bas. Elle aime ce qu'elle entend et ça lui plaît, elle a envie d'avoir cette vie. Et à 12 ans, elle sait qu'elle sera religieuse et missionnaire. Elle veut être missionnaire. Vous voyez que ça l'a marqué d'avoir entendu des missionnaires, puisque quand elle fonde sa congrégation, elle l'appellera les missionnaires de la charité.
Et sa famille est d'accord? Elle la porte?
La sœur, non, lui dit « tu n'auras jamais d'enfant ». Elle répond « j'en aurai des millions ». Ce qui est quand même assez extraordinaire. Il y a une intuition très forte. Je pense qu'elle est vraiment reliée au divin, de manière très claire d'ailleurs. Si on sait un peu lire en sémiologie spirituelle les signes, j'ai envie de dire, il y en a plein. Et puis son frère se moque d'elle en lui disant « intelligente comme tu es, tu pourrais faire mieux ». La mère est très vite d'accord. Elle lui dit « si tu t'engages, tu prends la main de Jésus et tu ne te retournes plus ». Et elle ne s'est plus retournée, elle n'a plus jamais revu sa mère, plus jamais revu sa sœur. Mais ça n'est pas son fait à elle, c'est parce que l'Albanie interdit les contacts avec les terres spirituelles.
Elle quitte l'Albanie, elle va partir pour l'Inde le 26 septembre 1928, elle n'a que 18 ans. On vous raconte Mère Teresa, la missionnaire, tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
La curiosité ce soir de découvrir un destin extraordinaire, celui de Mère Teresa qui va devenir Sainte Teresa puisqu'elle sera canonisée dimanche à Rome par le pape François Olympia Alberti. Vous allez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, cette canonisation. C'est un long processus. Depuis quand est-il engagé?
Pour elle, il a été engagé au lendemain de sa mort. Les congrégations ont demandé qu'elle soit sanctifiée. Elle a été béatifiée. Elle est morte en 97. Elle est béatifiée en 2003. Donc 6 ans après, ce qui est extrêmement rapide.
C'est rapide, oui.
Par Jean-Paul II.
Qui la connaissait personnellement, qui avait été la voir en Inde, qui avait été bouleversée par Kaligat, ce fameux mouroir, c'est-à-dire cet endroit où on dépose, je l'ai visité, des hommes d'un côté, des femmes de l'autre, qui vont mourir dans la dignité, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, disons, dans de la propreté, entouré, lavé, baigné. Il y en a un qui a dit un jour, j'ai vécu comme un monstre, dans la souillure et la saleté, je vais mourir comme un ange. D'être entouré de douceur et de propreté, c'était merveilleux.
Et ce lieu, c'est Mère Teresa qui l'avait créé? Elle l'a administré en quelque sorte.
Oui, elle l'a créé, c'est-à-dire qu'elle s'est fait donner un hangar tout crotté et à l'abandon qui appartenait aux brahmanes, qui un jour ont voulu le réclamer.
On racontera ça tout à l'heure. Oui.
Et donc on revient à la canonisation.
Pour être canonisé, donc
il faut 2 miracles attestés, au minimum.
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'ils sont prouvés comme miracles. C'est-à-dire que si vous avez un cancer et que toute la nuit, une nuit, vous entrez en prière parce qu'on vous dit que vous êtes condamné, et par exemple, je met en scène les choses comme ça. Vous prenez une photo de Mère Teresa, vous l'appliquez sur l'endroit le plus proche de votre cancer et vous priez comme ça, il peut se passer quelque chose. Et ça s'est passé, un des cancers de l'estomac d'une femme qui croyait en Mère Teresa a été guéri.
Donc il y a 2 miracles officiellement attribués à Mère Teresa.
Attestés. C'est-à-dire qu'ils ont été prouvés, vérifiés par un médecin avant, pendant, après. Non, parce que sinon, effectivement, prenez un Aspro, la migraine passe. Oui, c'est vrai que si la migraine est forte, c'est un miracle.
Ça serait trop facile. Vous nous disiez hors antenne qu'il y en a eu d'autres, des miracles de Mère Teresa.
Oui, il y en a eu d'autres. Une de mes amies a vécu un miracle, mais elle ne serait pas contente que j'en parle.
Alors, vous n'allez pas rentrer dans le détail, mais donc vous trouvez ça parfaitement justifié qu'elle soit canonisée.
Oui, mais moi, de toute façon, pour canoniser Mère Teresa, je n'attendrai pas les miracles, même si l'institution religieuse catholique passe par ces étapes-là, parce que nous avons une religion avec, dans le christianisme, qui est le catholicisme, qui veut dire universel, hein, et qui est l'idée d'étapes et d'échéances. Mais pour moi, Mère Teresa, elle est sainte d'avoir réussi à faire ce qu'elle a fait.
Oui, je suis assez d'accord avec vous. Vous racontez son histoire dans ce livre, Le Royaume de sa nuit. Mère Teresa, le récit d'une vie, c'est aux presses de la Renaissance. Donc on l'a quitté tout à l'heure, juste avant d'écouter le dernier disque de Céline Dion. On l'a quitté en partance pour l'Inde. Elle a 18 ans. C'est quoi la première étape? Qu'est-ce qui lui arrive dans les semaines qui suivent?
Elle a d'abord l'apprentissage de l'anglais pendant 3 mois, et puis elle part, elle a 6 semaines de bateau, et le premier contact c'est Madras, ensuite ce sera Calcutta. La joie qu'elle a, c'est la première messe avec les autres sœurs sur place, la découverte de l'Inde, parce que l'Inde c'est une danse extraordinaire de sons, de lumière, d'obscurité, de miasmes, de senteurs, c'est fabuleux, mais il ne faut pas me brancher sur l'Inde, on est là jusqu'à 3h du matin, j'y suis allée 8 fois.
La future Mère Teresa arrive dans un couvent de jésuites, c'est ça?
Oui.
Avec une discipline de fer.
Non, pas du tout. Je ne pense pas que la discipline soit de faire. Elle s'applique la discipline jésuite.
Oui, c'est ce que j'ai lu dans votre dit. Elle prend une espèce de cahier où elle note tout ce qu'elle doit faire dans la journée,
puis
elle, de peur
elle
de mal faire.
Elle somorigène surtout. Elle fait comme Etil Soum, le frail de son côté, avant d'être assassiné à Auschwitz, c'est-à-dire travaille sur soi. Méditation, elle se reproche de ne pas être très obéissante parce qu'elle a déjà une forte personnalité, elle se dit n'oublie pas, obéir et tout. C'est vrai qu'obéir, c'est savoir que derrière l'ordre de l'humain, il y a Dieu, donc il faut en passer par cette épreuve-là. Et elle note tout, et elle est quelqu'un, elle est du signe de la Vierge, hein, faut pas perdre ça de vue, elle est très organisée, dire que tout doit être noté, elle se surveille, elle fait attention à elle, comment elle évolue, comment elle obtient d'elle-même le meilleur.
À quel âge elle choisit de s'appeler, pas encore Mère Teresa, mais Sœur Teresa? Et pourquoi ce choix surtout?
Elle a
26 d'années, c'est ça,
ouais. ans ouais. quand elle devient Sœur Teresa. Et j'ai dû le noter quelque part, mais je n'ai plus la date exacte. C'est le 24 mai, c'est toujours le mois de mai. Mmh. Elle a d'abord les vœux qui sont temporaires, enfin qui ne sont pas. Les vœux définitifs sont prononcés, elle a 26 ans, 27 ans.
Ouais.
Et là, elle est.
Pourquoi Teresa?
Pourquoi Teresa? Parce qu'elle admirait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de Lisieux, et elle disait que Thérèse d'Avila, c'était trop haut pour elle. C'est là où j'en vois une humilité que je trouve extraordinaire. Mmh. Elle dit que c'est trop haut pour elle, parce que c'est vrai que Thérèse d'Avila, c'est la grande mystique d'amour, mais et puis le niveau de la philo et de la métaphysique dans tout ça est extraordinaire. N'empêche que dans l'incarnation des choses, Mère Teresa n'est pas loin.
La jeune sœur Teresa, on reprend un peu le fil de son récit et de sa vie. Elle a 21 ans, elle est envoyée dans un dispensaire en pleine campagne, au cœur de la forêt du Bengale. Qu'est-ce qu'elle va apprendre là-bas?
Eh ben, elle va apprendre à supporter les plaies ouvertes, le sang qui coule, la puanteur, le pu, comment on nettoie une plaie, comment on soigne, comment on ne tourne pas de l'œil. Et je vous assure que c'est beaucoup plus faisable dans la jungle himalayenne qu'à Calcutta. Parce qu'à Calcutta, quand le sang d'une chèvre sacrifiée se répand sur la pierre chaude du temple, vous tournez de l'œil. Moi, j'étais accompagnée par une amie qui faisait des photos avec moi, Anne, et je la bénis, elle avait des mouchoirs en papier dont je ne vais pas citer le nom, qui étaient parfumés à la menthe. Et elle m'a sauvée parce que j'allais tourner de l'œil à cause de... Vous savez, le sang, c'est très fade. Et quand ça coule sur une pierre qui est chaude, c'est très répugnant. Elle a dû se préparer à ça, je me suis mis le mouchoir.
Elle devient forte, c'est ça, Mère Teresa se confronte à la violence, au sang, et elle devient imbattable, indestructible.
Non, on n'ira pas jusque-là, parce qu'on ne peut pas être dans quelque
inébranlable.
Chose... Elle reste humaine, mais elle apprend à soigner, elle apprend à faire des pansements, elle apprend à aider une femme à accoucher, enfin elle apprend des bribes comme le ferait une aide-soignante ou une infirmière.
Ce que vous nous disiez tout à l'heure, elle est aussi dans le concret, c'est une grande mystique, elle est dans le concret, elle est efficace, c'est ça Mère Teresa?
C'est ça, tout le temps. Et elle ne perd jamais le contact avec le réel. Ce que je trouve extraordinaire pour une femme qui a eu des locutions divines, elle n'a jamais, jamais perdu le contact avec le réel. Vous savez, il y a une anecdote très intéressante. Un jour, Air India a décidé de faire cadeau à Mère Teresa de tout ce qu'elle a porté, parce que dans tous les pays où elle allait, le Venezuela, qui a été le premier pays après l'Inde à fonder fondé sa congrégation, la suite des missionnaires de la charité qui a essaimé dans le monde, puis ailleurs. Elle arrivait, elle avait des baluchons qui tenaient avec des ficelles hallucinants. Et les équipes d'Air India, les équipages voyaient arriver ça en éclatant de rire, disant, elle ne nous épargnera rien. Elle avait des centaines de kilos, puisqu'on lui offrait. Et elle arrivait avec ses baluchons. Et elle dit, mais ils en ont besoin, vous comprenez? Et elle apportait et les fringues, et la farine, et le riz, et le tout. Enfin,
pourquoi Mère Teresa a-t-elle créé cette congrégation des missionnaires de la charité? On va le raconter tout à l'heure. Imaginez, on est dans un train qui traverse la jungle himalayenne.
Vous écoutez RTL.
Ici Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Mère Teresa est morte le 5 septembre 1997 à Calcutta. 6 ans plus tard, Jean-Paul II annonçait sa béatification, première étape vers une canonisation qui aura lieu ce dimanche à Rome et devrait réunir des centaines de milliers de fidèles. En septembre 1997 aussi, quelques heures, quelques jours après sa mort, des milliers de personnes avaient rendu hommage à Mère Teresa à Calcutta.
Sur le camion kaki tractant le catafalque, un face-à-face étonnant ce matin dans les rues de Calcutta entre les petites sœurs des missionnaires de la charité et les soldats de l'armée indienne. Des funérailles nationales, en effet, pour la sainte des pauvres. Dans l'enceinte du stade Netaji, toutes les religions sont représentées pour la célébration de cette cérémonie funèbre. Protestants, hindous, musulmans, sikhs ou bouddhistes, unis dans un même hommage à la religieuse catholique que l'archevêque de Canterbury qualifiera d'ange de la paix.
Olympia Alberti, depuis tout à l'heure, vous nous faites découvrir les grandes étapes de la vie de Mère Teresa. Ça représente quoi, sa congrégation, les missionnaires de la charité en 97, quand elle disparaît?
Il y a déjà entre 450 et 500 mini-congrégations dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a la maison mère des missionnaires est, ouais, à Calcutta. Il y en a quand même, vous voyez, au moment où elle meurt, déjà une masse. Et puis, on en est à 610, un peu plus maintenant. Si on a publié 610, c'est qu'on en est à 620. Ou 620.
Donc, c'est une œuvre qui lui a survécu.
Ben, elle avait dit, si cette œuvre n'est que le produit de moi-même, elle s'éteindra avec moi. Et si elle était bien ce que je crois, la volonté de Dieu, elle continuera, elle perdurera. Et c'est ce qu'on voit.
Aider les plus miséreux, quitter le couvent, c'est ce que vous nous avez raconté, pour s'installer au cœur des bidonvilles de Calcutta, c'est le projet complètement fou.
Elle ne s'installe pas dans les bidonvilles. Elle habitera sur Circular Road, la maison mère. Elle ne sera jamais. Elle ira tous les jours dans les bidonvilles. Elle travaillera dans les bidonvilles 8 à 10 heures par jour pour aider, faire des pansements, nourrir. Mais elle ne s'installera pas dans les bidonvilles. Elle sera très proche. Et quand vous êtes à Calcutta et que vous marchez dans les rues, enfin moi avec ma tronche, c'était sûr, dès qu'il me voyait arriver, il me regardait et disait Mother, yes, here. Et alors il m'a dit, tous, dès qu'il voyait ma tête, il disait Mother. Et il m'indiquait chaque fois Chichoubavan, là où je voulais aller. C'était.
Vous racontez, Olympia Alberti, l'histoire de Mère Teresa dans ce très beau livre Le Royaume de sa Nuit, publié aux presses de la Renaissance. Grâce à vous, on se retrouve par exemple le 10 septembre 1946. Mère Teresa est dans un train qui traverse la jungle himalayenne. Qu'est-ce qui lui arrive?
Elle vit une révélation. Ce qu'elle a espéré toute sa vie, c'est avoir un jour une mission. Hein, puisqu'elle veut fonder les missionnaires de la charité, et elle est fascinée par l'image du missionnaire depuis qu'elle est enfant. Et elle entend un mendiant qui crie sur le quai d'une gare de l'Himalaya et qui crie « Ma, j'ai soif, ma, j'ai soif », et il le répète en litanie. Et tout d'un coup, elle réalise que ce n'est pas ce mendiant n'est que le moyen, le médium au sens pur, qui a été utilisé par le Christ pour lui parler. Et elle réalise que c'est le Christ qui lui parle, qui lui dit « j'ai soif », et elle entend au fond d'elle « j'ai soif d'âme, rassemble des âmes et apporte-les à moi, envoie-moi des âmes ». Et là, tout d'un coup, la mission lui est donnée, elle allait pour se reposer, et elle se met à écrire à toute vitesse ce qui lui arrive sur un petit carnet. Et c'est d'autant plus méritoire que quand vous êtes dans le toy train, c'est un tout petit train, minuscule, et qui menace de verser dans la vallée, et vous avez 2500 mètres de dénivelé. Et je peux vous dire que quand vous vous penchez, vous dites « Oh, si j'avais su, j'aurais fait monter ça. »
C'est du vécu, c'est ça?
Ah oui, j'ai fait pareil, je suis montée dans le train. Vous mettez 10 heures pour faire 80 km, parce qu'il y a des lacets comme ça, puis t'entends que vous avez des hindous qui n'ont pas les moyens. Vous connaissez tous ces images où ils s'accrochent au train.
Bien sûr,
ils s'accrochent du mauvais côté. Ils s'accrochent du côté où
du
ça
précipice.
Mais oui, alors vous êtes là, vous dites non quand même, j'ai pas fait mon livre encore, pas tout de suite.
Donc, je ne suis pas passée la curiosité, pas tout de suite.
Et là, on imagine Mère Teresa qui se dit mais non, je n'ai pas encore eu le temps de créer mon ordre de missionnaire. Parce que donc, elle, vous nous le racontez, elle a cette expérience mystique et elle a trouvé sa mission. Sauf que. Ça se complique parce qu'il y a une hiérarchie, parce qu'on est dans l'Église catholique.
Il y a des patrons.
C'est une femme.
Et parce que c'est une femme. Et donc elle va devoir.
La misogynie du milieu catholique n'est peut-être pas trop à démontrer.
C'est pas un vain mot. Et donc qu'est-ce qui va lui arriver? Elle va devoir convaincre, c'est
oui,
ça?
Oui, il faut qu'elle. Elle en parle à son confesseur, c'est dans l'ordre des choses. Hein. Et donc de la hiérarchie, donc elle en parle au confesseur. Le confesseur lui dit plus un mot là-dessus. Maintenant je vais en parler à Monseigneur Perrier, l'archevêque de Calcutta. Il lui dit non mais ça va pas, si je devais faire droit à toutes les demandes des petites sœurs comme ça qui ont une idée, non. Lui il attend d'être convaincu, il va essayer de dialoguer avec le divin pour avoir confirmation d'eux, on la met à l'épreuve, on l'envoie en exil, on la remet, elle n'a pas le droit d'en parler, puis elle en parle, et puis on analyse, et puis ce qui nous intéresse c'est pas ce que vous vivez, mais la faisabilité, on croit avoir un chef d'entreprise qui dit le créneau, le machin, le bénéfice, enfin bon.
Combien de temps elle va devoir attendre
Mère Teresa? 2 ans et demi, c'est très long.
Elle devait être épinée d'impatience.
Oui, mais c'est terrible. On voit l'échange de lettres, elle n'en peut plus, elle est découragée. Mais chaque fois, elle se rappelle, elle se dit, j'ai dit que je ne refuserai jamais rien à Jésus. Elle ne leur dit pas. Pour elle, c'est une grande plaie. C'est-à-dire que dans son cœur, elle a dit, si un jour je refuse quelque chose à Jésus, mon âme est en risque de mort. Son âme, c'est-à-dire la mort de l'âme, c'est quelque chose de terrible. On n'arrive même pas à le concevoir, nous, pauvres petits humains terrestrement attachés. Mais c'est vraiment la perdition. Et donc, elle lutte et elle essaie de convaincre en disant « Mais même si je n'en sauvais qu'un, Monseigneur, réfléchissez, ce serait bien. » Enfin, elle se bat et c'est le cœur du livre. C'est pourquoi je l'ai appelé le royaume de sa nuit. C'est-à-dire, elle est la reine d'un combat terrible. Parce que dès que l'exclaustration, c'est difficile à dire.
Donc l'autorisation de sortir du couvent.
Et de mener à bien son œuvre.
Ouais.
Dès que ça commencera, ça va commencer à s'estomper, le contact, et tout d'un coup, elle va sentir qu'elle est abandonnée.
On le racontera tout à l'heure. Il y a une parenthèse, non, c'est pas une parenthèse, c'est important. Il faut citer un nom, c'est le nom de Jacqueline de Decker. Qui est-elle? Parce que c'est dans ces années-là qu'elle rencontre cette femme.
Elle devient son amie. C'est une Belge qui a décidé de se battre pour aider les Indiens, les Hindous. Et elle est là-bas, elle la rencontre à Patna au début, et puis elle devient son amie. Et quand Jacqueline de Decker va tomber gravement malade, c'est pour elle, et avec son accord, leur accord à toutes les deux, qu'elles fonderont les missionnaires au rang. C'est-à-dire les gens qui ne peuvent pas physiquement aider puisqu'elle est tombée très gravement malade. Quelque chose qui devait s'apparenter à une maladie grave des os et des poumons. Et donc elle devient quelqu'un qui prie et qui va diriger les groupes d'oraison.
Alors, on continue de raconter, grâce à vous, Olympia Alberti, l'histoire de Mère Teresa. Vous l'avez évoquée plusieurs fois, rapidement, il va falloir l'expliquer. Elle est passée par une grande phase de doute, c'est ce que vous allez nous raconter dans un instant.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Le président Carter a été l'un des premiers à la féliciter pour ce prix Nobel de la paix. Le pape en a fait de même, mais tout cet honneur, toute cette gloire n'ont pas tourné la tête de Mère Teresa.
RTL.
Je pense que ce prix est un don à partager. Il permettra de donner un toit à ceux qui n'en ont pas et de prendre soin de la multitude des malades et des mourants, car notre ordre s'étend maintenant un peu partout dans le monde.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Mère Teresa, dont vous venez d'entendre la voix, qui reçoit le prix Nobel de la paix. On est en octobre 1979. Elle sera béatifiée en 2003. Et puis dimanche prochain, elle sera canonisée à Rome. Olympia Alberti, vous publiez Le Royaume de sa nuit aux presses de la Renaissance. Vous nous racontez la vie extraordinaire de cette femme. On ne l'a pas décrite encore. Elle ressemble à quoi, Mère Teresa?
Elle est petite, un peu courbée à la fin de sa vie, ratatinée. Évidemment, on n'imagine pas Mère Teresa se mettre de la crème sur le visage le soir. Mais elle vit, je vous dis, en moyenne, il fait... À Calcutta, c'est l'enfer sur la terre. Moi, j'ai été épouse d'un Indien de l'Inde et j'ai vécu 25 ans avec lui. Donc, j'ai beaucoup voyagé. Ma belle-mère m'avait dit « Jamais ne va à Calcutta ». J'y suis allée parce que quand je fais un livre, je vais sur les lieux, comme pourrait-il sous Auschwitz. Et là, je dois dire que je me rappelle ma belle-mère qui me disait « 45 à l'ombre, c'est fréquent ». Donc elle a vécu dans 45...
Elle vivait avec ça tous les jours, en fait.
Tous les jours. Et elle vivait pieds nus. Elle a eu 3 paires de sandales. C'est pour ça que je commence mon livre par « Elle marchait pieds nus dans sa tête, puis dans son cœur et dans son âme ». Et à la fin, ma grande gloire intérieure, c'est d'avoir lu qu'elle avait dit « Au moment de mourir, je veux arriver pieds nus devant mon Seigneur ». Mais quand on voit ce qu'on a dans les placards, les filles, et qu'elle avait eu 3 paires de pompes, jusqu'à 87 ans. Là, on se
et
dit.
Un célèbre sari blanc à bandes bleues.
C'est elle qui l'a créé. Les bandes
elle
bleues, c'est le style marial, c'est-à-dire de Marie. Elle l'a dessiné et il était fait à Titagar.
C'est quoi Titagar?
C'est un lieu où des lépreux guéris tissent avec le coton de l'Inde, le fameux coton de l'Inde qui a servi tellement dans la lutte de Gandhi pour l'indépendance. Et on tisse les saris des missionnaires de la charité.
Alors, on a dit tout à l'heure qu'il y avait eu une hostilité de la hiérarchie catholique, ou en tout cas, on lui avait mis un certain nombre de bâtons dans les roues avant qu'elle ne puisse créer cette congrégation des missionnaires de la charité. Cette congrégation, elle prend assez vite de l'importance, elle grandit, et elle suscite des jalousies ou de l'hostilité, d'abord de son ancien couvent. C'est-à-dire, elle n'a pas le droit de communiquer ou d'échanger avec
son
ancien couvent. C'est
parce
quoi cette histoire ?
Et ils ont peur qu'elle détourne des jeunes femmes. Ils veulent à tout prix, eux, garder les jeunes femmes de la bourgeoisie et qu'elles restent au couvent et qu'elles soient des braves, si elles deviennent des sœurs dans l'ordre des choses et du fonctionnement habituel. Et c'est l'inverse qui se produit. Elle a été un professeur extraordinaire d'histoire géo. Elle leur parlait toujours de poésie.
Elle était prof
pendant 18 ans. Mmh. Et donc, du coup, c'était le bonheur de sa vie. Elle a dit, c'est la période la plus heureuse de ma vie. Donc, elle a été heureuse au moins 18 ans. Et quand les filles rejoignent la congrégation, elles sont passionnées et ils se disent, c'est fichu. Mmh. Elles vont marcher dans les rues, elles vont être pauvres, elles vont échapper à cette hiérarchie. Parce qu'il y a un côté révolutionnaire dans Mère Teresa, c'est incarnons les paroles et les projets du Christ.
Il y a aussi l'hostilité de certains Indiens. On l'accuse, Mère Teresa, de vouloir convertir les pauvres des bidonvilles. Qui est en première ligne contre Mère Teresa?
Évidemment, les brahmanes qui perdent leur superbe.
C'est quoi les brahmanes déjà?
Les brahmanes, c'est la plus haute caste de l'Inde. Mmh. Ce sont ceux qui ont perverti le système parce que normalement, avoir beaucoup de droits signifie avoir beaucoup de devoirs. Dans toute spiritualité authentique, plus il y a de droits, plus il y a de devoirs.
Mmh. Et eux n'ont que des droits, c'est ça ?
Eux, ils prennent l'habitude d'avoir des droits et des privilèges et des prébendes, et les autres n'ont plus rien.
Et alors, qu'est-ce qu'ils font
arriver
contre
cette bonne
Mère
femme,
Teresa,
ben, ils décident de récupérer, une fois qu'elle a nettoyé Caligate, qu'elle a fait propre, qu'elle a lavé les carreaux, ce grand espace, cet immense hangar, elle a tout bien arrangé, ils se disent, on va le récupérer. Et donc, ils appellent le préfet de police, ils disent, vous allez nous la virer. Le préfet de police arrive, il vérifie, il regarde tout, il dit, oui, vous avez raison, on va la virer, mais à une condition. C'est ce qu'elle fait pour les lépreux et les pauvres et les mourants, vous allez le faire. Tous les brahmanes se sont carapatés, évidemment, ça ne les intéressait pas. Et donc, elle a gardé son lieu. Et il était furax. Et il a dit, la prochaine fois que vous me dérangez, vous allez voir, ça va barder. Il avait compris. Et elle n'a jamais voulu qu'un musulman devienne hindou, qu'un hindou devienne chrétien, etc.
Pas de prosélytisme.
Voilà, elle disait, le musulman sera meilleur musulman, le chrétien meilleur chrétien. Chacun reste dans sa voie et il avance.
Alors, il nous reste un petit peu de temps, Olympia Alberti. Il faut raconter ce doute. Alors, moi, avec mon petit vernis de culture sur Mère Teresa, je vais dire, ah oui, Mère Teresa, elle va devenir sainte, mais elle n'a plus cru en Dieu à une époque de sa vie.
Non, c'est pas ça. Elle n'a pas cru que Dieu n'existait pas. D'ailleurs, Dieu n'est pas existentiel, il l'est. C'est nous qui sommes existentiels. Mais elle a senti que la connexion était coupée, donc elle se sentait désaimée de Dieu. Elle a senti de la glace l'envahir et elle s'est dit, si la glace m'envahit, c'est que j'ai démérité, c'est que j'ai mal fait, c'est que j'ai peut-être désobéi. Elle a douté d'elle-même.
Mais c'est à quelle époque de sa vie, ça?
Ça a duré 50 ans.
Elle a vécu avec ce...
C'est pour ça que je trouve qu'elle est sainte.
Ce lien qui s'était...
rompu.
Pour elle, c'était rompu.
Oui, et elle se sentait...
Où il était épisodique, je ne sais pas si on peut dire ça.
Oui, elle a eu des moments, elle a eu par exemple un moment pendant un mois, ça a été la joie revenue, l'allégresse, puis ça disparaissait.
Ça n'a rien changé à l'action de Mère Teresa.
C'est pour ça qu'elle est sainte, je trouve. Parce qu'elle a vécu dans ce royaume de nuit, comme j'ai essayé de l'expliquer, et qu'elle a continué d'aimer, d'aider, de dépasser cette absence intérieure. On ne peut pas dire qu'elle ait douté de Dieu, parce que je ne crois pas qu'on ait mal à l'absence de rien. Et puis vous savez, la plus belle définition de Dieu, c'est celle de Rumi. Il a dit, Dieu ne te laisse pas absent de lui un seul instant. Elle s'est sentie absentée de la présence divine et ça devait être déchirant. Quand on a eu le luxe d'avoir des locutions divines avec le Christ, c'est vrai que d'un seul coup, plus rien, ça doit être atroce.
Est-ce que Mère Thérésa a pu transmettre, je ne sais pas si on peut transmettre sa foi, son savoir, son action en tout cas, sur le terrain ?
D'abord à ses élèves, elle a été un professeur reconnu extraordinaire, elle enseignait dans la joie, donc c'était merveilleux. Et puis, ses filles, comme elle les a appelées, et ses sœurs, elle a transmis beaucoup de choses. Sœur Nirmala, qui lui a succédé à la tête de la congrégation, qui vient de mourir là, disait, quand j'ai vu ses yeux la première fois, je me suis dit, cette femme, elle a Dieu en elle.
Merci beaucoup. C'est
merci
le magnifique mot de la fin de cette émission. Merci Olympia Alberti. Votre livre, Le Royaume de sa nuit, est publié aux Presses de la Renaissance.
Vous écoutez RTL.